La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
Monsieur Amber.
Monsieur Cassavant, comment ça va, mon ami? J'ai pas ma tasse de café, juste de l'eau aujourd'hui.
Ben ouais, t'as changé la routine, pas de café.
Mais parce qu'on a pris un espresso juste avant ça, fait que je peux pas me pomper trop.
Bon, ça, c'est sûr que faut quand même faire attention avec la diète de caféine, M. Amber. Merci aux gens de nous écouter encore une fois dans cette édition du balado, le dernier round, disponible sur Cube Radio, TVASport.ca et autres plateformes audio également. Merci aux gens de nous écrire. L'adresse courriel, le dernier round, box avec un E, acommercial@gmail.com.
On a-tu des questions aujourd'hui?
On va en avoir plus tard au balado. Oui, si tu respectes le temps, on va pouvoir arriver à quelques questions de nos auditeurs, assurément.
Si moi, je respecte le temps, parfait. Je réponds des réponses de un mot. That's it. Vite, puis on passe aux questions.
Écoute, c'est comme tu veux, Russ. C'est toi qui décides la façon dont tu veux répondre. Okay. Pour ce qui est des nouvelles de la semaine de la boxe. Premièrement, toi, tu es encore en ville, Russ. Ça fait quelques semaines de suite qu'on se voit ici à Montréal pour une des rares fois, je dirais, avant le retour du camp d'entraînement de Usyk un peu plus tard. Mais tu t'en vas à Toronto cette semaine, non?
Oui, Toronto pour la fin de semaine. Combat au nouveau casino à Toronto. Je pense que c'est près de Woodbine, là. Les courses de chevaux, ça va être là au nouveau casino. Ricardo Brown, un boxeur, un poids lourd, un immense colosse qui continue. Je pense que ça va être son 8e ou 9e combat professionnel.
11e combat déjà professionnel.
11e, tu vois. OK. Donc, intéressant. Tu sais, des poids lourds, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver puis quand est-ce qu'il peut être impliqué dans un grand combat. Fait que,
Et c'est une carte de United Promotions qui a maintenant conclu l'entente avec Eye of the Tiger pour le combat Shaquille Finn, Eric Bazinian, qu'on a parlé la semaine dernière et qui va être au Casino de Montréal le 11 avril prochain. Il est également United dans la carte de samedi, Sukhdeep Bhatti, qui est présentement invaincu à 17 victoires, aucune défaite chez les poids moyens. Je ne sais pas si peut-être qu'on va avoir d'autres combat dans le futur entre l'écurie United Promotions et Eye of the Tiger.
J'espère. J'étais pour dire ça. J'espère. Parce que ça, c'est un gars qu'on aimerait voir à Montréal. T'sais, c'est quelqu'un. En tout cas, c'est un gros vendeur de tickets à Toronto. Il est très, très supporté là-bas. Probablement un des meilleurs vendeurs de tickets pour United Promotions. Puis dans la ville de Toronto. Puis un boxeur excitant, il amène toujours de l'action. Fait que ce sera bon si on peut avoir. Puis c'est dans une division populaire en plus. Si lui était un boxeur durant les années 80, man, on aura rempli les centres, le centre Paul Sauvé contre des gars de Montréal contre lui. Ça aurait été très, très excitant.
Et en parlant de combats excitants, la semaine prochaine, Butler Rose, Ontario, Québec. Affrontement jeudi soir, le 7 mars prochain, au Casino de Montréal, également sur Punching Grace et la sous-carte sur TVA Sport. Donc, on va pouvoir en parler davantage la semaine prochaine. Russ,
très intéressant ce combat-là, hein, en passant, juste pour te dire.
Ben oui, non, c'est pour ça. On va en parler davantage la semaine prochaine, mais tu sais, à premier coup d'œil, par exemple, j'ai parlé à Scully, également qui est l'entraîneur de Butler, deuxième camp d'entraînement de Scully en compagnie de Stephen Butler. C'est quoi ton premier, vu qu'on est sur le sujet, Russ, c'est quoi ton à premier coup d'œil, Rose Butler? Qu'est-ce que tu penses?
Un contraste de style qui peut être très, très dérangeant pour les deux. Mais je pense que probablement, comme tout le monde, plus difficile pour Butler que pour Rose. Parce que Rose, il a fait face à des des meilleurs boxeurs au monde. Il sait c'est quoi attendre. Il était dans le ring avec Golovkin. C'est un boxeur très bon défensivement, très difficile à toucher, très habile, beaucoup d'expérience. Butler ne peut pas se permettre beaucoup d'erreurs parce que sinon Rose va capitaliser là-dessus. Fait que ça va être, ce combat, je trouve, très, très intéressant. Puis une victoire par Butler lui remet dans le portrait de la division des poids moyens, au moins au niveau national, puis sur le très près de retour sur la scène internationale. Parce que oublie pas, selon moi, Rose, il a failli battre Berlanga, puis on parle de Berlanga maintenant qui est comme un possible adversaire à Canelo. Incroyable que je viens de dire ces mots-là, que ces mots-là sont sortis de ma bouche.
Ça change de toutes les semaines, l'histoire de Canelo. Je veux pas non plus, on en a parlé beaucoup des dernières semaines. C'est sûr que c'est une mention par rapport à la mise à jour. Quand on s'est parlé la semaine dernière avec Edgar Berlanga qui a gagné son combat face à l'Irlandais McCrory, Berlanga avait une position de vraiment pouvoir être un adversaire de Canelo potentiellement plus tard dans l'année, pour la raison que Eddie Hearn avait parlé avant le combat comme quoi qu'il allait faire un offre à Canelo pour Berlanga. Et on a su depuis le dernier balado de la semaine dernière que Canelo et PBC, Al Haymon, Premier Boxing Champion, ne sont pas capables de s'entendre sur les bourses et les prochains adversaires.
Donc là, Canelo... split amicable, ils ont dit. Séparation amicable.
Ouais. Mais Canelo est dans une... Il peut splitter amicablement avec n'importe qui veut, rendu avec le nombre d'argent qu'il a collecté dans sa carrière. Donc là, Canelo est dans une position que si il se tourne vers Eddie Hearn et Matchroom, qui a déjà fait affaire avec, Berlanga et Jaime Munguia sont les deux noms considérés pour cette année. Peut-être un troisième, mais on sait pas encore l'ordre. On sait qu'il va se battre au mois de mai. Un jour, t'entends Munguia, un jour, t'entends Berlanga. On avait mentionné la possibilité la semaine dernière, Russ Munguia, ça fait une couple de semaines qu'on le sait. Berlanga, je l'avais dit la semaine passée. Donc, même avec cette victoire de Berlanga par knockout dans un combat face à un adversaire invaincu, que plusieurs pensaient que Berlanga allait faire la distance, t'as pas été convaincu qu'il est prêt du tout à l'élite de la division des 168 livres.
Pas qu'il est pas prêt, mérite pas. Il y a une différence. Pas seulement pas prêt, mais il mérite pas, c'est encore pire.
Pourquoi il mérite pas?
Qui a battu pour mériter un combat contre la vache à lait de la boxe? Quand t'as plusieurs aspirants en avant de toi qui méritent cette opportunité-là? Ça, c'est la question de mérite. Mais ça a l'air que dans le monde qu'on vit présentement, Matt, comme tu viens de m'expliquer, à tous les jours, ça n'a pas rapport à mérite.
Mais est-ce que Avni Yildirim méritait vraiment une opportunité à Canelo Alvarez il y a quelques années?
Absolument pas.
C'est ça, donc je comprends. Donc, on va dire ça. C'est pas la première fois que ça l'arriverait.
Mais par contre, la différence à ça, c'est que Yildirim n'était pas une défense obligatoire.
Était une défense obligatoire, tu veux dire?
Non, il n'était pas une défense obligatoire.
Il était défense optionnelle.
Je crois que oui. Et si on va dire que tu as raison. Oui. Donc, Canelo, il est obligé de défendre contre l'aspirant obligatoire.
Mais oui, mais je pense plus, est-ce que Yildirim méritait même cette opportunité s'il était aussi, tu sais, autant classé de cette position en partant, là?
Répète la question, s'il vous plaît, juste pour qu'on soit sûr.
Mon point, c'est que peu importe qu'il soit obligatoire ou pas, dans le cas de Berlanga, ça serait pas un obligatoire, on s'entend.
C'est ça.
Il y a des boxeurs qui ont eu des opportunités dans les championnats du monde ou des gros combats, puis c'est pas une question de mérite, simplement. C'est ça que je veux dire.
Si vous êtes un optionnel, je suis d'accord. Des fois, c'est pas à cause du mérite, parce que vous êtes choisi par le champion, je suis d'accord. Mais là, si tu me dis qu'il était optionnel, ben, Canelo, d'abord, il a rempli ses engagements de défendre son titre contre l'optionnel. Mais moi, je connais la vraie histoire de pourquoi Yildirim a eu un combat contre Canelo.
Puis je pense ce qui est arrivé, c'est que là, je révise mes notes là, il y a quelques années. C'était pas un combat obligatoire, mais Canelo a demandé à WBC après que Yildirim il l'a battu. Peux-tu me donner du temps pour que ça compte comme un obligatoire? Puis Mauricio Sulman a dit oui, il n'y a pas de problème.
Peut-être. Mais moi, je sais pourquoi c'est Yildirim qui a eu ce combat-là. Puis j'étais dans son coin le combat avant, pourquoi il a eu ce combat-là.
Oui.
Mais ça, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que...
Peut-être présentement...
que
c'est une histoire que tu ne peux pas parler sur le balado, c'est ça?
Ben, ça me dérange pas. Bon. Ben oui, tu veux l'entendre, ça me fait plaisir.
OK, rapidement, parce qu'on ne veut pas passer plein de temps sur Yildirim.
C'est toi qui as amené son nom, pas moi. Moi, je te parlais de Berlanga qui ne mérite pas.
OK, d'abord, reste sur Berlanga. Retourne sur Berlanga, puis reste sur Berlanga de bord.
Okay, il n'a pas battu personne pour mériter un combat quand tu as déjà des aspirants à 168 livres que, dernièrement, des boxeurs ont sauté par-dessus tous ces aspirants-là pour avoir une opportunité contre Canelo. Et c'est ça que je trouve pas ça que je trouve pas ça correct. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde de plus en plus qui sont d'accord avec moi. Puis j'étais pour te demander la question que j'ai vue. Est-ce que à cause de qu'est-ce que les accomplissements de Canelo dans le monde de la boxe, il mérite-tu le droit de faire qu'est-ce qu'il veut dans sa division?
Tu demandes la question à moi, tu demandes la question aux auditeurs du balado, Russ?
Mais les auditeurs ne peuvent pas me répondre. Je vais demander la question, il n'y aura pas de réponse. Ils ne sont pas là.
Je pensais qu'il nous écrit. Je pensais que c'était un sondage. Je pensais que c'était l'équipe.
Ça pourrait être un sondage aussi, mais là, je te pose la question.
Est-ce qu'il mérite? Mais il peut faire ce qu'il veut. C'est pas une question de mérite, c'est une question de il peut le faire.
Peut puis mérite, c'est deux choses. Parce que si tu dis qu'il mérite de le faire à cause de tout ce qu'il a fait, c'est une chose.
Non, mais moi, je pense pas que c'est une question de mérite. C'est une question plus de. À cause qu'il peut se le permettre, mais j'aimerais qu'il affronte les tops de la division, qu'il respecte l'hierarchie de la division. Mais c'est pas une question de mérite, moi, je pense. Là, comme que, mais s'il était plus loin dans sa carrière, peut-être, en fin de carrière, mais théoriquement, il est encore assez jeune, il a encore l'intention d'être dans le monde de la boxe. Et s'il disait que c'était son dernier combat en carrière, là, je pourrais dire oui, il peut choisir qui veut. Mais c'est pas le plan de Canelo.
Moi, la façon que je vois ça, c'est que, admettons qu'il n'était pas champion, puis il y a une opportunité de boxer pour un titre mondial. D'après qu'est-ce qu'il a fait pour la boxe, il mérite cette opportunité de boxer pour un combat de championnat. Ça, je vois ça de même. Mais quand vous êtes champion, vous avez une certaine obligation, que tu sois à ton premier défense du titre ou à ton dixième défense du titre, tu as une certaine obligation envers le titre de champion du monde. Peu importe qu'est-ce que tu as fait, parce que you're only as good as your last fight. On est d'accord? Parce que si tu perds, t'es plus champion. Donc, il est obligé de respecter ses défenses obligatoires. Et si je pense bien, il y a quatre titres, ça veut dire il y a possibilité d'avoir quatre différents aspirants obligatoires.
Oui.
Est-ce qu'il défend contre un de ces quatre-là? La réponse est non. Et je trouve ça pas correct. Je trouve ça triste pour tous les boxeurs qui travaillent, puis eux autres qui suivent les règles pour devenir champion du monde, qui n'ont pas l'opportunité parce que la vache à lait décide, non, moi, je vais choisir qui je veux. J'ai le goût de boxer contre un gars à 154 livres que ça fait deux ans qu'il n'a pas boxé pour un titre, pour donner lui une opportunité à le titre mondial à 168. OK, no problem, on te laisse ça. OK, mais tu as fait ce combat-là, maintenant, respecte tes obligations obligatoires. Et c'est ça qui
est... On verra avec l'annonce officielle quand ça va arriver. Et ainsi, qu'est-ce que les organisations vont décider de faire par rapport à la décision de Canelo Alvarez? Ça, c'est à suivre. Je pense qu'on a tellement parlé de Canelo les dernières semaines. Là, je suis rendu un peu en mode, je veux mettre plus d'énergie sur Canelo lorsque le combat va être vraiment conclu. Okay.
Parfait, on va en
passer la période de spéculation. On sait maintenant qu'on est on s'enligne vers Berlanga, Munguia, mais la semaine prochaine pourrait nous réserver une autre surprise. Un combat qui est officiel. Puis ça date vraiment, on est à une semaine du combat. Je vais demander, Russ, parce que la semaine prochaine, on va avoir Christian Mbili comme invité au balado. On va pouvoir parler également de ce qui se passe sur la scène locale avec le gala d'Eye of the Tiger jeudi prochain. Mais pour l'aspect international, je vais passer un peu de temps cette semaine. Le combat est dans une semaine. Joshua Ngannou.
Oh!
C'est juste moi où on entend peut-être moins parler du combat que j'aurais anticipé à une semaine environ, jour pour jour, de la
c'est vrai, Matt, regarde, je savais même pas qu'on était à si près...
Vendredi, le 8 mars.
Wow!
En Arabie Saoudite. Donc, vers les heures de 5h, 6h le soir de Montréal.
Donc, wow!
Ben,
wow!
Il y a eu l'annonce officielle, pour ceux qui l'ont vu, là, t'sais, ils font ça, en gros, à Riyad, avec la bande-annonce Street Fighter, t'sais, style cinéma, film. Donc, très bien réussi, encore une fois, qui a été viral sur les réseaux sociaux. Mais on va voir la semaine prochaine lorsqu'il va avoir la conférence de presse et qu'il va avoir plus de publicité. Mais on dirait que je ne sais pas à quoi m'attendre du tout maintenant de ce combat. Est-ce que ça va être un combat excitant? Est-ce que ça va être un combat que les deux hommes vont avoir tellement peur de leur puissance, vont se respecter? Tu sais, je pense qu'on pensait tellement que Fury allait gagner facilement et il est arrivé ce qui est arrivé contre Ngannou, que là, on ne sait plus vraiment. Il y a encore beaucoup de gens du monde de la boxe qui ne veulent pas donner de crédit à Ngannou. Ils pensent que Anthony Joshua, qui est beaucoup plus sérieux que Tyson Fury à l'entraînement et également dans son approche, va gagner de façon facile et spectaculaire contre Ngannou. La première fois que tu pensais que ça allait être un walk in the park pour Fury contre Ngannou, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Est-ce que tu penses qu'Ngannou est meilleur qu'on pensait ou penses-tu que Joshua, qui va prendre ça au sérieux, va dominer?
Merci pour avoir rappelé à tous nos auditeurs que j'étais dans le champ, dans ce combat-là, mais je pense que tout le monde était dans le champ. Il n'y a personne qui...
Arrive que tu as raison, mais des fois, faut le dire. Quand...
Écoute, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, Fury, il n'était pas à son meilleur. On peut dire même qu'il était à une de ses pires performances, mais il est quand même un boxeur habile. Oui. Et malgré ça, mauvais timing, style bizarre, force de frappe de l'autre, j'étais quand même surpris, et vraiment surpris de la performance de Ngannou, même si Fury n'était pas à son meilleur. Fury n'a pas à son meilleur, il est meilleur de beaucoup, beaucoup de poids lourds dans le monde.
Oui.
Et quand même, Ngannou, il était impliqué dans un combat compétitif. Matt, j'ai absolument rien à dire de négatif contre Ngannou.
Oh, mais là, maintenant, pour Joshua, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est correct, Fury, là.
Correct, Fury. Je pense que Ngannou a démontré qu'il est quelqu'un qui peut se défendre. Quelqu'un qu'il est bon. Le seul problème qu'il va avoir, c'est que il va avoir un boxeur en avant de lui qui prend au sérieux.
Exact.
Et quelqu'un qui est sur un genre de mission de prouver qu'est-ce qu'il est capable de faire et de faire mieux que Fury. Et ça, ce sera de arrêter Ngannou.
Anthony Joshua n'a jamais été arrêté dans sa carrière non plus de hors martiaux mix.
Oui, mais il n'y a pas la même distance. Okay. La distance va faire mal aussi. L'intensité du combat et la distance jouent un gros rôle quand tu fais arrêter ou pas arrêter, OK? La fatigue, c'est ça que j'avais prévu le premier combat contre Fury. Je m'attendais que il sera tellement épuisé juste à cause de faire des rondes de 3 minutes un après l'autre quand t'as un monstre en avant de toi. Mais là, il va avoir qu'est-ce que Anthony Joshua a pas que Fury a pas apporté? C'est une force de frappe.
Exact.
Et ça risque de faire mal à Ngannou. Il faut, mais quand même, je te dis, le gars, il sait comment se défendre. Il est quelqu'un qui vient des arts martiaux, des sports de combat. Il sait comment se défendre. Il est un big man et avec une force physique et force de frappe. Joshua le prend au sérieux. Et c'est sûr que Ngannou le prend au sérieux aussi. Moi, je pense, de tout conseil maintenant de Ngannou, je prends ce combat-là plus au sérieux que j'ai pris le combat contre Tyson Fury. Est-ce que c'est fair que je te dis ça?
Oui, mais ça, je pense que c'est évident. Qui va dire « prends pas ça au sérieux » après la performance d'Ngannou contre Fury?
Je donne plus de crédit peut-être que la plupart des gens.
Moi, c'est plus que là, maintenant, Ngannou, 4 fois négligé, à 4-1 contre Joshua, il l'était beaucoup plus contre Fury.
Ouais.
Mais est-il assez puissant pour arrêter Anthony Joshua? S'il arrête Anthony Joshua, vas-tu être comme ça, flabbergasté, moi, j'en reviens pas? Ou vas-tu dire, Joshua, il a le menton pour se faire pogner?
Non, je vais être flabbergasté et mettre ma main de main, incroyable. Et la seule façon qu'il peut le faire, c'est il y a la puissance. Là, c'est une question que s'il va toucher Joshua. Mais oui, je pense que je vais être vraiment surpris s'il fait. J'attends pour moi. Si j'ai à donner ma prédiction, je vais retourner à ma prédiction que j'ai faite avec Fury. Si Joshua prend ça au sérieux, et je crois qu'il prend au sérieux, je pense que Ngannou risque d'être épuisé, au moins que il voit qu'il y a trop de talent derrière Joshua. Il y a trop d'habilité, il y a trop de force, de coups de poing solides, il y a trop d'agression de la part de Joshua qu'il finit par être un peu pieuvre, puis elle commence à accrocher, utiliser sa masse musculaire, sa force de lutter un peu, de empêcher Joshua de boxer, et qui pourrait rendre le combat un peu plate et peut-être peut enlever un peu de la performance de Joshua. Mais je pense que si Joshua fait qu'est-ce qu'il est capable de faire, je pense que Ngannou risque de trouver ça long. Je pense.
Joshua, avec cette victoire contre Otto Wallin en décembre dernier, avant le combat, faut pas oublier, il y a beaucoup de gens qui pensaient même peut-être qu'Otto Wallin allait causer la surprise. Et là, tout d'un coup, c'était Anthony Joshua est de retour. Le grand champion, il est rendu avec Ben Davidson dans son coin. Il est confiant. Il reste en Angleterre pour ses camps d'entraînement. Il est de retour comme étant une menace à la division. Ça se posait de Wilder. Wilder perd contre Joseph Parker. La surprise, Wilder, il lance quasiment aucun coup. Et là, tout d'un coup, Joshua est de retour dans le driver's seat, si on veut, pour des gros combats, et choisit d'affronter Ngannou. Donc, vraiment, il y a une raison autre qu'il y a de l'argent, qui va en avoir amplement. C'est également, je pense, pour prouver à Tyson Fury, je suis meilleur que toi. Parce que Joshua part toujours d'affronter Tyson Fury. Il part pas d'affronter Usyk, le fait qu'il a déjà perdu deux fois contre. Il espère même que Fury bat Usyk pour qu'il puisse avoir le combat contre Fury et l'homme à arrêter Tyson Fury. Donc moi, sachant que Joshua veut prouver un peu un point, je pense pas qu'il va être ultra craintif et juste être content de sortir avec une décision partagée comme Fury a eu contre Ngannou. Ouais. Donc, c'est pour cette raison que Joshua, par knockout, c'est ce que les preneurs au livre pensent va arriver. C'est pas payant de penser que Joshua gagne par knockout contre Ngannou. Mais j'ai bien hâte de voir, parce que Ngannou est résilient par rapport à cette puissance. Je pense qu'il peut avoir un moment que les deux hommes se font mal dans ce combat-là. Et que Joshua soit un peu surpris par la courte puissance d'Ngannou. Mais ultimement, je vois Joshua gagner avec une chute au tapis, la part de Ngannou, mais une décision assez sens unique.
Par décision, tu penses?
Oui, mais il va voir. Joshua va réussir un knockdown contre Ngannou.
Je pense que s'il réussit le knockdown comme tu prévois, il l'arrête avant la limite. Si au moment où il voit qu'il est capable de toucher Ngannou solidement, il l'arrête.
Bon, mais à suivre.
À suivre.
On va pouvoir rejouer, mettre ça dans le... C'est quoi, c'était le VCR à l'époque, là? On va reculer. On va pouvoir jouer ça la semaine prochaine. Parfait. Si Ngannou gagne, on va encore se dire ça va vraiment, vraiment mêler les cartes dans la division des poids lourds. Je pense pour Ngannou, ce qui est plus important, c'est s'il veut demeurer un boxeur, cette performance contre Joshua, on va pouvoir voir à quel point il peut rester dans la course de combats intéressants dans la division.
Monsieur Cassavant, je vais te dire quelque chose. Si Ngannou gagne ce combat contre Anthony Joshua, ça va être le meilleur départ d'un boxeur professionnel de l'histoire de la boxe. Ça va être le plus grand exploit, le plus grand exploit d'un boxeur qui fait ses débuts dans la boxe professionnelle de l'histoire de la boxe. Puis inclut là-dedans toutes les plus grandes de l'histoire que ça soit.
Lomachenko a eu combien de combats avant son championnat?
OK, tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas. Est-ce que je parle si mal en français que tu m'écoutes? J'ai dit dans la division des poids lourds.
Ah, division des poids lourds.
Division des poids lourds. Désolé. Va être le meilleur début de l'histoire. Puis là-dedans, tu peux inclure Mohamed Ali, Joe Louis, Lennox Lewis.
C'est pas la même chose.
Non, non.
Joe Louis, Mohamed Ali ont commencé dans la boxe. Il n'y avait pas une carrière de je ne sais pas combien de combats dans un autre sport de combat avant
de venir en boxe. Mais c'est quand même, je sais que ça joue un rôle, mais ce n'est pas la même chose, Matt. Ce n'est pas la même discipline. Et de réussir
c'est
à boxer.
Ce n'est pas la même discipline, mais ce n'est pas non plus. C'est pas le soccer, là.
Matt, c'est correct. Mais ils ont affronté un et deux meilleurs poids lourds de la division. Ils n'ont pas fait le cinquième gars, le huitième gars. Un et deux. S'il gagne, s'il perd, il va avoir perdu à les deux des meilleurs.
Le premier combat, tu peux avoir un argument qu'Ngannou méritait la décision contre Fury. Mais ça va l'air quasiment d'un combat exhibition, tu sais, à un certain point par rapport, jusqu'à le temps qu'il y a eu la chute, là, tu réalises, OK, c'est un vrai combat. Donc, tout ça pour dire que, oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, on peut pas comparer Ngannou dans le sens que c'est le meilleur, il y a aucun doute que c'est la meilleure transition de l'histoire de la UFC en boxe professionnelle. Ça, je te l'accorde.
Sans doute.
Début de carrière, c'est pour lui donner crédit qu'il affronte vraiment les deux gros noms de la division, mais je veux dire, c'est pas tout à fait un début professionnel.
Oh, ben, OK. C'est le début dans la boxe, puis il a pas affronté un jambon.
Non.
Si il gagne. Imagine, man, s'il gagne. Sa fiche est 1-1 dans sa carrière professionnelle de boxe une défaite controversée contre Fury, puis une victoire contre Anthony Joshua. Tout un début, man. C'est incroyable, incroyable.
En tout cas, hey, écoute, peut-être que ça va être le remplaçant si Fury décide de ne pas se battre contre Usyk encore une fois. Peut-être qu'Ngannou va être l'homme parce qu'il ne semble pas refuser aucun défi. Donc, pour y aller. À suivre. Donc, on vous rappelle, on aimerait ça entendre vos prédictions là-dessus ou également. Vous pouvez nous écrire sur Twitter ou le dernier roundbox à gmail.com. Ngannou, Joshua, vendredi prochain en après-midi, heure de Montréal, soirée en Arabie Saoudite. Russ, tu seras même pas là. Pas personne dans ce cadre de ce combat-là, de cette soirée de gala.
C'est incroyable que je sois en Arabie Saoudite. Il me semble que je passe tout mon temps en Arabie Saoudite. Ouais, je suis pas là. Non.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Bon, Russ, quelques questions par rapport à nos partisans cette semaine. De un, une question par rapport à Ryan Garcia Devin Haney. Je vais juste revenir, je pense que le nom était bien Alain, qui nous a demandé avec la conférence de presse cette semaine, est-ce que tu penses que Ryan Garcia est rentré dans la tête de Devin Haney?
Non.
Non, hein?
Non.
Par rapport à l'aspect qu'il a vu le vidéo, supposément, de Devin Haney qui aurait été ébranlé en sparring
non.
par le passé...
Et,
Garcia, il est chum avec Mayweather maintenant, puis Mayweather, c'était l'ancien chum de Devin Haney.
Non.
Puis, on s'entend, ça va être un gros combat au mois d'avril prochain. Conférence de presse à New York. Le père de Devin Haney, Bill Haney, qui donne un bon spectacle, lui, il se pogne avec Bernard Hopkins, un des promoteurs de Golden Boy Promotions.
Moi, j'ai quoi à dire là-dedans, mais bon,
vas-y. Ben, est-ce que, j'ai très, très hâte de voir le combat. Je vois aucunement comment Garcia peut gagner. Mais peut-être que, écoute, il semble donner un spectacle, mais j'ai encore l'impression, partout que je vois Ryan Garcia, il est constamment impliqué avec son image et le fait que c'est une méga vedette plus que la discipline que ça prend pour être champion du monde.
Ça, c'est très bien dit, Matt. Je peux même pas contredire ça. Pour moi, il se comporte pas contre un gars qui va bientôt faire face à un des meilleurs boxeurs de la division et dans le monde de la boxe livre pour livre.
Devin Haney a accusé Ryan Garcia d'être sous à la conférence de presse.
Je le sais. Moi, ça me dérange, je vais te dire quelque chose. Moi, j'aime bien Bill Haney, j'ai jasé avec lui, je l'aime bien, j'ai vraiment pas de problème avec lui, j'ai déjà jasé avec lui longtemps, puis il est bon promouvoir de son fils, il parle logique, tu sais, souvent il dit des choses, c'est très logique, très intéressant. L'historique qu'il y a là-dedans, il fait ses recherches, entertaining, mais intelligent aussi. Moi, la seule chose que j'aime pas, c'est que quand les deux boxeurs sont en train de se parler, puis c'est rendu dans ce mode de la boxe que même des gars de 4 rondes, ils font du face-à-face, puis ils sont obligés de parler à un ou l'autre, puis dire les choses le plus irrespectueux. Qu'il peut imaginer, puis de sacrer, puis dire toutes sortes de stupidités qui n'ont aucun sens, mais c'est rendu la mode maintenant, que le père de Devin Haney, que Bill Haney s'empoigne avec Bernard Hopkins, ça, c'est une chose.
Ouais.
Okay? Ça, c'est deux hommes. Mais qu'il fasse au boxeur, puis commence à parler contre l'autre boxeur, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais accepté dans la boxe. T'sais, que l'entraîneur de l'autre commence à faire du trash-talking direct avec le boxeur. Ça, ouais. J'accepte pas ça. Le boxeur fait tu veux parler aux conférences de presse, qu'est-ce que t'en penses? Pas de problème. Tu veux dire, moi, je pense, mon gars, il est meilleur que lui, il est pas bon, il baisse ses mains, il s'entraîne pas. Dis qu'est-ce que tu veux. Mais d'échanger un argument avec le boxeur, je l'accepte jamais, ça. Fait que, puis pourtant, Bill, il est intelligent. Je comprends pas. Il n'y a pas besoin de le faire.
Non, il est définitivement devenu un entertainer, comme on dit, parce que même ses capsules sur Instagram, il s'en prend à Floyd Mayweather, il s'en prend à des gros noms. Ça peut être quand même divertissant. Je trouve des fois qu'il le fait aussi avec un côté un peu plus humoristique et pas juste des insultes. Ouais. Mais visiblement, sa stratégie, c'est également assez de rentrer dans la tête du boxeur de son fils, parce que Devin Haney, lui, des fois, parle moins que son père. Laisse son père un peu faire. Et on l'a déjà vu, tu sais, avec le père de Danny Garcia, Angel Garcia faire ça. On le voit un peu avec le père de Teofimo Lopez. C'est toujours particulier. Le boxe, c'est peut-être le seul sport que tu vas voir vraiment. Moi, je me trompe. Peut-être que tu vois ça des fois dans d'autres sports individuels, mais surtout dans le boxe, que le père va vraiment amener son boxeur jusqu'à un niveau de champion du monde et demeurer, comme du début à la fin, l'entraîneur. Et dans certains cas, il n'avait pas vraiment eu, le père en tant que tel, une grosse carrière dans le monde de la boxe. Mais quand même, c'est unique. Et des fois, ça va vraiment bien. Des fois, ça finit mal. Mais Bill Haney, c'en est un à date qu'on peut parler vraiment d'une histoire de succès. Il y en a eu plusieurs, pareil, dans le monde de la boxe, où que le père et le fils, la combinaison a très bien fonctionné. Il y en a d'autres, par contre, qu'on voit des fois que le père, là, ça devient un peu que eux vivent la vie de leur enfant, le super stardom, si on veut. Et le show devient, ça s'en prend un peu. Et je pense qu'on voit ça des fois avec le père de Teofimo Lopez.
Écoute, Matt, c'est un très, très bon point, puis on peut jaser longtemps là-dessus. Deux exemples qui me viennent à la tête tout de suite, c'est le père de Roy Jones, à un moment donné. Puis ça, c'était quelqu'un qui
produisait des carrières, non?
Pardon?
Quand même assez tôt dans la carrière de Roy, non, qu'il y a eu un froid entre les deux?
Oui, mais je veux dire, c'était un vrai entraîneur. Oui. Puis c'était une vraie. Il y avait des boxeurs, lui. Son équipe amateur, il y avait beaucoup de boxeurs.
On va se dire autre que juste son fils.
Exact. Tu sais, beaucoup de succès comme entraîneur.
Ouais.
Ça a mal fini avec lui puis Roy. Papachenko, Vasily, il rentre pas dans le ring sans son père.
Exact.
Il n'y a jamais de chicane, il n'y a aucun problème, il y a du respect entre eux. Et le bonhomme, il a travaillé avec l'équipe olympique. Tu sais, c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans le monde de la boxe. Mais là, tu as mentionné quelques personnes que eux sont impliqués dans la boxe par la seule et unique raison qu'ils sont avec leur fils. À part de ça, ils sont plus dans la boxe.
Ouais.
C'est intéressant.
Oui, tu as le contraste, mais c'est ça. Dans le cas à date de Bill Haney, ça fonctionne excessivement bien avec Devin Haney, qui est peut-être est introduit dans la division de 140 livres avec cette victoire dominante contre Régis Progrès. Mais là, maintenant, par rapport au gros combat qui peut avoir lieu, c'est Garcia amène encore énormément d'argent, même après cette défaite contre Tank Davis. Mais s'il se fait encore battre de la même manière, là, je pense qu'on va commencer à perdre un peu Ryan Garcia, son momentum. Mais pour lui, s'il est capable de rester divertissant et donner une bonne performance, une bonne prestation contre Devin Haney, il va devenir le boxeur que tout le monde va vouloir affronter comme un B-side de haut de gamme, si on veut.
C'est ça, juste pour dire, victoire ou défaite, ça n'a pas d'importance, c'est performance qui va être importante. Parce que tout le monde a ça sur lui, comme quoi qu'il a pris le compte sous son genou, puis il a comme lâché, OK?
Devin Haney encore, tu sais, parlait ça, que comme quoi Ryan Garcia, t'es un lâche, tu vas également le faire une autre fois.
Il peut se permettre une défaite contre Haney, mais une défaite compétitive où il démontre du cœur, puis il essaye, puis il fait mal, mettons, à Haney, puis là, ils sont impliqués dans une tough fight, puis il perd, ça lui endommagera pas en tout. Mais s'il se fait humilier, qu'il est pas bon, qu'il a l'air vraiment novice, puis que Haney le déclasse, ou même pire, qu'il fait lâcher, ça risque d'être problématique.
Oui, donc on va en masse de temps en parler d'ici la date du 20 avril au Barclays Center à Brooklyn. Mais finalement aussi, Ryan Garcia, je sais pas combien de chicanes qu'il y a eu dans le passé avec De La Hoya, Hopkins, l'autre fois, la conférence de presse avant son combat contre Oscar Duarte, a parlé contre ses propres promoteurs. Puis là, finalement, cette semaine, c'était l'accolade, souper avec Oscar. Oscar, c'est la main avec Hopkins. Il n'y a plus de beef. Let's go. Pendant ce temps-là, Bernard Hopkins contre Bill Haney, j'aimerais ça voir ça, parce que Hopkins, je pense que Bill Haney, il trouve pas drôle, pantoute. Il regardait de façon comme quoi qu'il voulait vraiment faire un comeback dans le ring. Bill Haney, parce que, on a vu aussi, il y a quelques semaines, il avait poussé Bill Haney dans un combat qui avait pas rapport avec les deux hommes, mais qui était spectateur. Et là, à la conférence de presse, Bill Haney qui essaie de pousser Hopkins en l'appelant l'Alien, là, lui, il dit de la sauce, tout ça. Bernard, il n'était pas trop content avec celle-là.
Non.
L'autre question pour toi, M. Amber, cette semaine. Oui. Caroline, question par rapport à Alexis Barrière.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses de Alexis Barrière, le jeune poids lourd qui est espoir slash aspirant au Québec, mais qui est en camp d'entraînement avec Tyson Fury depuis le début de l'année et qui est un camp d'entraînement va retourner fort probablement camp d'entraînement éventuellement pour Fury également là avant le combat du 18 mai contre Usyk. Présentement sur l'équipe canadienne amateur, il est en Italie avec le reste de l'équipe qui tente de se qualifier pour les Jeux olympiques à Paris. Qu'est-ce que tu penses, Russ Caroline, demande par rapport à Alexis Barrière?
Qu'est-ce que je pense, c'est que ça me déçoit que Caroline ne me regarde pas à TVA quand je parle très bien de Alexis Barrière. C'est triste. Elle ne sait pas, puis il faut qu'elle demande la question. Caroline, écoute, moi, je l'aime bien, le kid. Moi, en tant que personnage, en tant que caractère, en tant qu'athlète, pour moi, il coche toutes les boîtes d'une éventuelle star dans le monde de la boxe. Je l'aime bien, Alexis Barrière. Beaucoup.
Mais c'est le combat que j'aimerais voir local, parce que Barrière, Keane aurait été le fun. Keane prend sa retraite, passe un autre appel. Barrière contre Aslembek Makhmoudov. À Shawinigan.
Parfait. Alexis Barrière contre Ricardo Brown. Ricardo Brown contre Makhmoudov. Il y a des poids lourds, là. Tu peux faire de quoi avec ces trois-là.
C'est vrai, on va pouvoir, on semble être dans, on a parlé de ça la semaine passée, dans la direction, là, vraiment de avoir le momentum de ramener des combats locaux, au Québec, canadien, Québec, Ontario, whatever, mais
ouais.
Ça va attirer un peu plus d'intérêt média et éventuellement, potentiellement ramener des foules plus importantes également de façon constante, comme on l'a déjà connu. Et je le souhaite pour Alexis Barrière, ça va être vraiment intéressant aussi de suivre sa progression amateur parce que maintenant, je sais que Russ, le règlement que tu peux retourner peu importe le nombre de combats, mais faut que tu te qualifies pareil. Tu dois avoir déjà été sur l'équipe nationale. Il y a plusieurs critères, là, mais pour le fait que certains professionnels, comme Barrière, qui a déjà 11 combats, puissent peut-être faire partie des Olympiques, je sais pas à quel point que le style, tu sais, ça change constamment ou maintenant, le fait qu'il n'y a pas de casque. Tu penses-tu que c'est un problématique, Russ, de jouer entre l'amateur et le professionnel pour le développement de sa carrière professionnelle?
Je trouve ça c'est la seule chose que j'haïs. Tu sais, le fait que des professionnels puissent aller dans la boxe amateur, tu t'estines avec des promoteurs pour de l'argent, t'estines, oh, je veux des billets gratuits, je veux deux chambres d'hôtel, je veux mes billets en classe affaires. Lui, ça, tu t'estines pour ça, contre le promoteur, mais t'es prêt à aller maintenant boxer contre les meilleurs au monde pour zéro. Juste pour dire, je suis allé aux Olympiques.
Ouais, mais attends, c'est pas juste pour dire que t'es allé aux Olympiques, Russ. C'est l'attention médiatique fait en sorte qu'après, tu peux te tourner de bord et avoir un meilleur contrat professionnel ou sinon t'amènes plus de bargaining power, si on veut. Tu peux négocier, avoir des meilleures bourses pour avoir plus de commanditaires
par le puis si moi, je suis ton promoteur, puis moi, je suis ton promoteur puis gérant, j'ai investi en toi dans tes 11 combats professionnels. Puis tu t'en vas aux Jeux Olympiques puis tu te fais stretcher par un gars ordinaire. Qu'est-ce que ça fait à mon investissement, ça?
Ça, c'est le risque à prendre, mais finalement, on ne sait pas s'il va se qualifier.
Non, mais je te donne ça. Je ne parle pas d'Alexis. Je parle en général.
Ah, OK, en général, oui.
En général. Je ne parle pas d'Alexis. Je parle en général. Ouais. Les boxeurs.
C'est une décision que le gérant est impliqué dans la décision du boxeur de retourner en qualification pour les Jeux Olympiques, je l'espère. Le promoteur, il a moins de mots à dire, mais le gérant, il a un mot à dire.
Celui qui investit l'argent, il devrait avoir le gros mot à dire là-dedans. Peut-être le gérant, c'est pas un gérant qui investit financièrement, peut-être c'est juste un conseiller pour combat. Tu sais, fait que c'est différent. Oui. Mais en tout cas, moi, je trouve que les boxeurs professionnels ne devraient pas être aux Olympiques. Ça devrait être pour les amateurs parce que une des raisons pourquoi je te dis ça, c'est parce que ces boxeurs-là ne participent pas pendant les 4 ans durant les cycles olympiques, à tous les tournois internationaux, les championnats du monde, jeux panaméricains, jeux du Commonwealth, tous les grands tournois de boxe amateur, ils ne participent pas. Puis en dernière minute, ils arrivent pour la gloire. Oh, je suis aux Olympiques, j'ai le drapeau, je suis aux Olympiques. Puis le gars qui a passé ses 4 ans à traverser le monde avec l'équipe, une équipe olympique, une équipe nationale, pour aucun argent pendant 4 ans, il se voit déplacé peut-être par un professionnel que lui, il n'a pas participé au cycle, ouais. Cycle olympique. Et donc, ça, je trouve
mais,
ça.
Mais pourquoi le règlement a été changé? Sais-tu pourquoi le règlement a été changé? Parce que ce n'est pas toujours le cas que tu avais le droit de participer aux Olympiques après avoir été professionnel.
Répète la question, s'il vous plaît.
Je ne sais pas, ça n'a pas toujours été le cas que tu avais le droit à un professionnel de retourner aux Olympiques pour la boxe.
Tu n'avais pas le droit.
Le règlement.
Tu n'avais pas le droit.
Oui, je sais, Russ, c'est exactement ça que je dis. Je dis donc, est-ce que tu sais pourquoi ils ont changé le règlement?
Bien, j'imagine pour l'argent. Je ne vois pas une autre raison. C'est pour l'argent, pour essayer d'avoir des boxeurs professionnels puis avoir de l'argent.
C'est intéressant. Je ne suis pas ça assez de près, mais je crois bien que après les Jeux de Paris, qui est la nouvelle organisation là, qui va remplacer AIBA au niveau amateur, je pense que c'est la dernière année que les professionnels vont être éligibles pour les Jeux olympiques de boxe. Mais ça, c'est à suivre. Je pense que ça retourne en c'est la dernière opportunité pour des professionnels parce que le World Boxing Association Organization, le WBO, je crois qu'il veut prendre la relève pour s'associer avec le comité olympique pour représenter la boxe. Et je suis pas mal certain que ils ont pas l'intention de laisser des professionnels les prochaines
quand
fois.
Quand ils ont commencé ça, il fallait que tu fasses une application, une demande spéciale de tournée professionnelle, puis ils te laissaient 3 combats, puis après ça, tu avais le droit de décider si tu reviens.
Ouais.
Tu avais le droit d'essayer la boxe professionnelle,
ouais.
Soit tu décides de rester ou tu retournes en boxe amateur.
Exact.
Maintenant, c'est rendu que même Manny Pacquiao a fait une requête pour aller aux Jeux olympiques, puis dites-moi si tu sais pourquoi qu'ils l'ont refusé.
Ton âge?
Son âge. Parce qu'au boxe amateur, il y a une réglementation d'âge, puis ils l'ont refusé. Imagine l'hypocrisie là-dedans, qu'un gars, il est capable de boxer encore comme professionnel, mais tu dis qu'il est trop vieux pour boxer amateur. je trouve ça vraiment tellement stupide, là.
Amateur, je pense qu'ils ont raison peut-être d'un certain point. Et eux, ils sont plus là pour la sécurité du sport que la boxe professionnelle, que c'est juste about.
Oui, mais c'est 3 rondes.
De vendre ou pas.
Oui, mais c'est 3 rondes. Pourquoi le gars, il a le feu vert de toutes les commissions athlétiques de boxer au professionnel, puis être même champion du monde, fait des 12 rondes, puis il a un problème avec sa santé.
Tous les boxeurs de 45 ans qui se font, c'est pas tous les hommes de 45 ans qui se font accepter à la boxe professionnelle non plus.
Mais il n'y a pas tous des gars de 45 ans qui ont le statut puis le calibre de Pacquiao non plus qui font cette demande.
Ça, c'est sûr, Russ. Ça, c'est sûr.
OK, Manny Pacquiao
aux Jeux olympiques, Russ. Let's go.
Pardon?
Toi, tu veux le hashtag ramener Pacquiao aux Jeux olympiques.
Non, mais je veux dire, arrête de faire ton hypocrite là-dedans. T'sais, tu laisses certaines personnes puis tu laisses pas un des plus grands. T'sais, c'est ridicule. Mais le jour, je dis peut-être pas maintenant à cause que le RC de la boxe amateur a changé, mais si c'était, mettons, on recule une couple d'années, si c'était un boxeur de l'Est, de l'Est, puis que le CA est contrôlé, boxe amateur contrôlé beaucoup, puis c'est un gars qui était, mettons, de la même trempe que Pacquiao, il aurait changé leur règlement vite. Il aurait laissé le gars boxer aux Jeux olympiques. Mais Philippines, ils n'ont pas un gros pouvoir politique, là, tu sais, ils n'ont pas un gros pouvoir. Fait qu'ils ont dit, non, OK, tu peux voir que c'était notre règlement a dit que t'es trop vieux.
Ouais.
Mais je boxe professionnel, je suis un des meilleurs dans le monde.
Mais plus maintenant.
Plus fort. Hein?
Plus maintenant. Pacquiao n'a pas été compétitif dans un combat professionnel depuis quand même plusieurs années. Ceci étant dit, je comprends ton point, mais on verra aussi si les gens qui sont plus au courant que moi, s'il vous plaît, nous écrire par rapport aux réglementations des prochains Jeux olympiques. C'est la dernière fois que des professionnels vont être éligibles. Parce que comme tu dis, dans le passé, c'était 5 combats au moins ou 3 combats au moins. Là, c'est rendu, ça change constamment. On va voir, mais...
Merci,
Karen, pour la question. Merci, Alain. Merci aussi également à Stéphane. Il y en a d'autres qu'on va devoir répondre la semaine prochaine, M. Hanber, car c'est tout déjà pour cette semaine. Tu vas pouvoir retourner. C'est quoi, plan salle de billard ce soir ou pas salle de billard?
Je pense pas ce soir. Mais moi, j'ai un dernier mot à dire, par exemple.
Bon, rapidement, s'il vous plaît.
Caroline, moi, je passe à TVA normalement les vendredis.
Normalement.
Donc, suis-moi à TVA. We good? À l'émission de Jean-Charles.
Oui, TVA Sport, parce que je pense pas que tu as d'entrevue avec Sophie Thibault de planifier dans les prochaines dates.
Et non, TVA Sport, c'est ça.
Merci beaucoup de nous écouter. C'est là tout pour le dernier round. Russ Hanber, bonne fin de soirée et on se parle la semaine prochaine.
Hey, salut, M. Cassavant. Si Dieu le veut.
Au revoir.